Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endo-girl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Lab AMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endo-girl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialiste du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bertille Flory, créatrice de contenu et auteure pour aider les femmes à comprendre, accepter et agir sur l'endométriose, et Camille Dervaux-Ringaud, cofondatrice de Gynéca, marque de micronutrition pour la santé féminine. Elles ont accepté de nous parler aujourd'hui de leur parcours en tant que patiente, de leur métier et de leur expertise en tant que patiente experte. Merci à toutes les deux d'être là aujourd'hui.
Bonjour Pauline.
Merci Pauline de nous accueillir.
Alors, pour commencer, pouvez-vous rapidement, même si je sais que c'est difficile, nous relater votre parcours de patiente concernée par l'endométriose du diagnostic à aujourd'hui ?
Alors, de mon côté, j'ai été diagnostiquée de manière complètement fortuite lors d'une grossesse extra-utérine. On m'a opérée en fait sous célioscopie pour retirer la trompe qui avait explosé sous l'effet de la grossesse. Et quand je me suis réveillée, on m'a annoncé que j'avais une endométriose profonde, ovarienne, digestive, avec une lésion importante sur le rectum et que tous mes organes étaient collés. À la suite de ça, en fait, on m'a proposé deux solutions qui sont les solutions que la médecine conventionnelle a aujourd'hui, à savoir un traitement hormonal ou la chirurgie. Et je ne voulais pas de traitement hormonal parce que je venais pour une grossesse et je souhaitais avoir un bébé. Et j'avais peur de la chirurgie à cause des conséquences potentielles. Et du coup, j'ai beaucoup cherché de solutions naturelles pour soulager les douleurs et me laisser du temps pour reconcevoir un bébé. Et un an après avoir commencé à mettre en place ces solutions non médicamenteuses, je suis tombée enceinte de mon premier petit garçon. Et depuis cette date, j'ai eu donc 3 enfants. Après 3 ans d'infertilité, c'est une belle victoire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus aucun symptôme et la maladie a énormément régressé. C'est une rémission qui est constatée à l'imagerie par les radiologues spécialistes de l'endométriose.
Merci Bertille.
Et de mon côté, c'est une histoire différente. Donc moi, j'ai été diagnostiquée parce que ça faisait plus de 4 ans que j'étais suivie pour une maladie de Crohn. Donc j'avais tous les symptômes cliniques d'un Crohn, donc énormément de troubles digestifs, alternance diarrhée, constipation, du sang dans les selles. Et pourtant, j'ai fait tous les examens, évidemment, coloscopie, endoscopie, fibroscopie, vidéocapsule. Et à chaque fois, les médecins étaient un peu perplexes puisqu'il y avait une décorrélation entre l'intensité des crises et des symptômes et les inflammations visibles. Il y avait des toutes petites, mais donc c'était assez compliqué à prendre en charge, surtout que donc, j'avais les traitements de première intention puis seconde intention de Crohn et que rien ne changeait, mes crises continuaient, voire s'accentuaient. Donc en 2015, ils m'ont proposé de me faire un IRM pour voir si ce n'est pas une maladie gynécologique, l'endométriose. Et donc là, on se rend compte que c'est effectivement de l'endométriose. Et pour moi, ça a été un peu compliqué à ce moment-là, comme pour la majorité des femmes, puisque donc on m'a proposé aussi les deux traitements de référence, la chirurgie et le traitement hormonal. La chirurgie, ça ne me parlait pas. J'avais envie de voir, je venais d'être diagnostiquée, j'avais besoin d'un peu appréhender la maladie avant d'avoir une intervention qui, vu que c'était donc une endométriose profonde sur les ligaments utérosacrés, cul-de-sac de Douglas, allait être assez invasive. Et du coup, j'ai commencé à prendre les traitements hormonaux, mais là, ça a été une grosse déception, si je puis dire, puisqu'en fait, certes, les douleurs liées au cycle menstruel, c'est-à-dire les douleurs d'ovulation et les douleurs de règles, étaient stoppées, mais en fait, il me restait tous les autres symptômes de l'endométriose et je me suis vraiment rendu compte que l'endométriose était loin d'être uniquement une maladie de règles douloureuses. Donc j'avais toujours mes troubles digestifs qui m'avaient amené à être diagnostiquée d'un Crohn. J'avais des troubles urinaires, des douleurs neuropathiques, même si je ne le savais pas encore, des douleurs pelviennes, des douleurs au rapport. Et du coup, je me suis sentie très seule et j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je trouve en fait des médecins capables de prendre en charge ces douleurs d'une manière ou d'une autre, médicamenteuse ou non médicamenteuse. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qu'on appelle les soins de support, le yoga, l'ostéopathie, la micronutrition dont j'ai été, que j'ai adoré, qui fut une révélation pour moi, la sophrologie, tout ça. Et en fait, c'est en changeant effectivement toute mon hygiène de vie que j'ai pu avoir petit à petit une vie normale.
Merci Camille. Et on a coutume de dire qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, et vos deux exemples en sont la preuve. Alors justement, aujourd'hui, comment vous cohabitez avec la maladie et quel va être votre rapport avec celle-ci, puisqu'on sait que ça peut être compliqué parfois étant donné les parcours très longs.
Oui, alors donc pour ma part, toujours, puisque chaque expérience est assez unique, maintenant je vis beaucoup plus sereinement ma maladie, ma vie, c'est-à-dire que ma qualité de vie est sans commune mesure avec ce que dans l'état où j'étais en 2015. C'est-à-dire que quand en fait mon traitement de base, on va dire quand je suis en régime de croisière, je continue à prendre une pilule en continu. Donc pour l'instant, moi je n'ai pas réussi, j'aimerais bien pas avoir de traitement hormonal, mais mon rythme de croisière, c'est une pilule en continu. Et grâce à la mise en place d'un régime, j'ai mon régime alimentaire spécifique, de faire beaucoup d'activités physiques, du yoga, la micronutrition, de l'ostéopathie très régulièrement, j'ai une qualité de vie qui est largement mais nettement plus meilleure, c'est-à-dire que je ne me sens pas impactée dans mon quotidien, je ne dois pas annuler ou des moments de vie sociaux, ça n'impacte pas ma vie professionnelle. Mais il reste toujours des moments où là je suis de nouveau confrontée à la maladie, c'est quand j'essaye de tomber enceinte. Alors donc j'ai la chance parce que j'ai pu avoir une petite fille il y a 2 ans. Et dans ces moments-là, c'est assez difficile pour moi en tout cas, puisque je dois arrêter le traitement hormonal. Et du coup, je refais face toutes les douleurs, même si j'essaye de les contenir avec plein de soins de support, ça redevient un peu plus difficile. Et pour mon rapport à la maladie, je dirais que ça a changé ma vie, ça a largement impacté ma vie, mais en fait, ça m'a d'une certaine manière rendue plus forte. Alors bon, j'aimerais bien ne pas l'avoir, mais ça m'a permis de faire énormément de travail sur moi pour accepter la maladie, vivre avec. Et je pense que maintenant, ça m'a donné beaucoup plus de sagesse, philosophie. Je sais être heureuse avec ce que j'ai dans le moment présent, ce que je ne connaissais pas, je pense, avant d'être malade.
Merci Camille.
De mon côté, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus de symptômes liés à l'endométriose, qu'ils soient digestifs ou gynéco, et beaucoup moins de fatigue. Je dirais que ma fatigue, elle a réduit de 80%. Moi, j'avais des symptômes digestifs vraiment très, très invalidants, avec diarrhée, constipation, mais aussi des douleurs extrêmes, type coup de couteau ou aiguille. Enfin, j'avais l'impression d'être déchirée de l'intérieur en fait en allant à la selle les 2 premiers jours des règles. Et puis, j'avais des évanouissements lors des diarrhées. Donc, tout ça a disparu de mon quotidien. Donc, j'ai aussi une régression des lésions qui est très, très importante à l'imagerie. Donc, pour moi, l'endométriose, ça fait partie de mon quotidien parce que je continue à avoir une alimentation adaptée à l'endométriose, à aller chez l'ostéopathe, à aller chez le kiné, à être suivie par une psychologue. Voilà, j'ai vraiment des soins de support très développés dans mon quotidien, mais la maladie ne se manifeste plus. Et je crois que c'est notamment grâce à ça. J'ai la chance pour moi que ça fonctionne extrêmement bien, tous ces soins de support, et de ne pas avoir de traitement hormonal. Et je suis dans une acceptation complète, en fait. Alors, on peut dire que c'est relativement facile quand on n'a plus de symptômes, mais j'ai quand même beaucoup changé mon quotidien, et c'est vrai que j'ai fait des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mange plus au McDo, je me couche tôt, j'essaye de limiter au maximum mon stress. Et donc, ma vie a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était avant. Et donc, j'accepte la maladie et j'accepte les impacts qu'elle a aussi sur mon quotidien parce que je sais que ça me fait du bien, en fait.
Et merci à toutes les deux pour ce partage d'expérience, parce qu'on sait que souvent, quand on vient d'être diagnostiqué, on ne mesure pas forcément l'impact que va avoir la maladie chronique au quotidien. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu vos retours d'expérience, vous qui êtes quelques années au-delà. Alors, pour rentrer un peu dans la partie professionnelle, vos parcours de patiente vous ont poussé finalement à vous engager professionnellement en faveur de cette cause. Alors, j'aimerais comprendre pour quelles raisons et comment s'est opéré ce changement slash
cette reconversion avant qu'on entre un peu dans vos parcours pro de manière plus détaillée?
Alors, de mon côté, en fait, je me suis sentie hyper seule au moment du diagnostic. Alors, moi, j'étais diagnostiquée en 2016, donc ça va faire 7 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas les sites internet très complets qu'on trouve aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les médecins étaient beaucoup moins formés, beaucoup moins informés. Et donc, je me suis sentie hyper seule quand j'étais diagnostiquée. Et en fait, j'ai... chercher des informations sur internet, j'ai trouvé des informations, mais tout était en anglais, tout était quand même assez compliqué, et je me suis dit avec mon parcours et ce que j'avais pu découvrir et tous les bienfaits que j'avais pu découvrir, il fallait que je permette aux femmes d'avoir accès à ça de manière facile, pédagogique, didactique, parce que ça fait un gagner beaucoup de temps. Parce que mieux comprendre son corps, mieux comprendre la maladie, ça peut aider à mieux agir dessus. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans la création de contenu et dans le partage de mon parcours, de mes expériences. Parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. Et donc, ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour toutes les femmes. Mais je crois qu'on fait toutes, dans ce chemin avec l'endométriose, des expériences, des tests. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Mais c'est... ça fait partie du parcours avec la maladie, avec la maladie chronique, de devenir actrice de sa santé, de se saisir de sa santé au quotidien. Et je crois que ça, pour beaucoup, en tout cas, ça fait la différence dans comment on va vivre avec la maladie de manière plus ou moins sereine.
Merci Bertie.
Oui, alors pour le coup, c'est assez similaire à Bertie. Pareil, j'ai vécu toute cette période entre le diagnostic de mon Crohn puis l'endométriose comme une véritable traversée du désert. De la même manière, moi je me suis allée beaucoup sur Google Scholar, regarder des documentaires américains ou australiens sur YouTube, beaucoup d'articles, mais en fait il y avait très peu de choses disponibles en France. Comme le dit Bertie à cette époque-là, donc pareil, moi c'était il y a 8 ans, les médecins étaient peu formés et peu informés, et on ne parle pas ensuite du grand public. Mmh. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai ressenti énormément de solitude et que j'ai recherché en moi des ressources que je ne pensais pas exister pour essayer de tout comprendre, pas tout comprendre, mais de comprendre mieux, de comprendre comment fonctionnait mon corps, de comprendre comment fonctionnait mon microbiote, ma digestion, qu'est-ce que c'était qu'une maladie inflammatoire, pour pouvoir en fait travailler main dans la main avec les médecins et avoir une meilleure prise en charge. Et en fait, à un moment, j'avais plus que ce chemin-là pour moi professionnellement. C'est-à-dire que j'adorais mon travail et j'adorais ce que je faisais avant. Mais c'est cette voie-là qui avait du sens pour moi parce que je pense que à cette époque, à l'époque de maintenant, à ce stade de ma vie, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris sur l'endométriose et aussi sur la capacité d'être acteur de sa santé, comme l'a dit Bertie. Et ça, j'avais envie de le transmettre professionnellement.
Et alors justement, est-ce que vous pouvez chacune m'expliquer vos projets et vos ambitions professionnelles liées à l'endométriose ?
Oui, alors pour ma part, donc j'ai cofondé Gineca, qui est une marque de micronutrition pour la santé féminine. Nous avons lancé une gamme pour aider à améliorer la qualité de vie des femmes qui ont de l'endométriose. Donc avec mon associé qui est ingénieur biologiste et une docteure en pharmacie micronutritionniste spécialisée en santé de la femme, nous avons développé 3 formules. Une formule pour les troubles digestifs, parce qu'on sait que 96% des femmes qui ont l'endométriose ont ce qu'on va avoir de l'endobélie, des troubles digestifs. Une formule pour l'équilibre hormonal et la fatigue chronique, qui sont aussi des symptômes de l'endométriose. Et une formule pour les règles douloureuses, pour les femmes qui ont de l'endométriose ou pas, et pour celles qui soit ne prennent pas la pilule, soit sont en projet bébé, ou souvent aussi pour les mamans d'adolescentes atteintes d'endométriose, qui cherchent des solutions plus naturelles.
Merci Camille.
De mon côté, en fait, c'est, on va dire, un side project, parce que je suis toujours salariée d'un grand groupe français de l'énergie, et donc je fais tout ce que je propose sur mon temps libre. Et donc, mon objectif, c'est vraiment d'améliorer la connaissance de cette maladie et d'aider les femmes à trouver les outils dont elles ont besoin pour augmenter leur sérénité au quotidien avec la maladie, augmenter leur acceptation de la maladie aussi, parce que je crois que les deux sont vraiment liés, en fait. On en parlait tout à l'heure, cette acceptation de la maladie chronique, elle va nous permettre de devenir encore plus actrices au quotidien. C'est-à-dire que si on est en confrontation, en refus de la maladie, c'est extrêmement difficile de mettre des choses en place. Alors que plus on va accepter la maladie, plus on va arriver à développer des choses qui pourraient nous faire du bien. Et donc, mon ambition, c'est vraiment que les femmes ne souffrent pas de l'errance médicale dont j'ai souffert pendant 19 ans quand même, puisque j'étais diagnostiquée à 30 ans et que j'ai eu mes premières règles à 11 ans. Voilà, que les femmes ne souffrent plus de cette errance médicale, qu'elles comprennent mieux leur corps, qu'elles comprennent mieux la maladie et qu'elles vraiment prennent ce pouvoir en fait sur leur santé et sur l'endométriose à travers en fait des connaissances qu'elles acquièrent et qu'elles découvrent des outils qui puissent les aider.
Merci Bertie. Et peut-être tu peux nous donner le nom de ton site et de l'ouvrage que tu viens de publier, parce que c'est des ressources précieuses pour les femmes et les hommes qui nous écouteront.
Oui, alors j'ai publié un livre fin avril aux éditions Rustica qui s'appelle Endométriose, prendre le dessus sur la maladie, dans lequel je raconte du coup mon parcours avec l'endométriose et tous les outils que j'ai pu mettre en place pour aujourd'hui être en longue rémission. Et ça passe d'outils très concrets, très pratiques du quotidien, comme des huiles essentielles ou des cataplasmes, ou le TENS par exemple, à un mindset, à une posture vis-à-vis de la maladie. Voilà, c'est très très large. Et c'est pour ça que quand je parle de. Enfin, le nom de mon entreprise, c'est Endolistique. Et je parle de cette vision holistique de la maladie, holistique de la santé de la femme. Parce que c'est important de ne pas se limiter à la partie physiologique, parce qu'on sait que le cerveau a des connexions très étroites avec le corps, avec le système digestif. Voilà. Et donc, mon site, mon blog et mon site internet, c'est endolistique, Endholistic.fr.
Bon, de toute façon, c'est des ressources qu'on mettra, nous, sur notre site EndoBloom. Et Camille, juste, je reviens sur un point. Peut-être que tu pourrais préciser ce qu'est la micronutrition. On a un épisode avec Fabien Piasco qui en parle également. Et voilà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien le sujet, tu peux peut-être redonner des précisions là-dessus, s'il te plaît.
Alors, évidemment, donc, la micronutrition, c'est le fait d'agir sur la physiologie, sur la physiologie fonctionnelle de l'individu, de l'être humain, par des micronutriments. Les micronutriments, ça peut être les acides gras comme les oméga-3, les polyphénols, les vitamines, le magnésium, le zinc, les minéraux. Et en fait, l'ambition de la micronutrition, c'est d'améliorer la physiologie naturelle, l'état de santé, le bien-être de l'individu par cet apport en micronutriments. Donc on sait que la majorité de la population de nos pays développés, par exemple, est extrêmement carencée en magnésium, en vitamine D. Donc on peut jouer sur des carences pour un bien-être, on va dire, général. Mais on peut aussi jouer sur améliorer la qualité de vie dans certains cas d'inflammation chronique, d'hyperperméabilité de l'intestin, de fatigue chronique. Il y a aussi des micronutriments qui peuvent jouer sur les récepteurs de la douleur. Donc voilà, c'est utiliser les micronutriments pour améliorer son bien-être et sa qualité de vie.
Merci à toutes les deux pour ces précisions. Et alors, vous êtes toutes les deux en passe de devenir officiellement patiente experte. Qu'est-ce que ça veut dire et pouvez-vous nous raconter en quoi ça consiste?
Alors, être patiente experte, c'est être formée à l'éducation thérapeutique pour accompagner des personnes atteintes de maladies chroniques, puisque ça ne concerne pas que l'endométriose, ça concerne toutes les maladies chroniques, à améliorer leur qualité de vie avec la maladie. En tant que patiente experte, en fait, on intervient soit dans des hôpitaux, soit dans des maisons de santé, soit avec des associations, dans une équipe pluridisciplinaire qui peut comprendre des médecins, des infirmiers, des kinés, des diététiciens nutritionnistes. Voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques et donc les femmes atteintes d'endométriose à améliorer leur qualité de vie, à découvrir des outils, des méthodes pour agir sur la maladie et améliorer leur qualité de vie avec la maladie.
Oui, bah, alors pour compléter ce qu'a dit Bertie, puisque c'est la même chose, mais voilà, donc être patient, être experte, ça veut dire être formée à l'éducation thérapeutique du patient. Bah, Bertie, toi Pauline et moi-même, on a été formés par un diplôme universitaire à la Sorbonne. C'est des diplômes qui sont ouverts à des soignants et des patients. Donc, je trouve ça intéressant de le dire. Comme l'a dit Bertie, c'est des équipes pluridisciplinaires. Donc les soignants aussi sont formés à l'éducation thérapeutique. Et les patients, donc il y avait des femmes qui avaient l'endométriose, mais aussi sclérose en plaques, BPCO, donc voilà, toutes les maladies chroniques. Et l'ETP, c'est un programme qui est réglementé, donc l'éducation thérapeutique du patient, c'est une appellation et un programme qui est réglementé par les ARS. Donc voilà, et qui sont destinés donc aux maladies, aux patients atteints de maladies chroniques pour améliorer leur qualité de vie.
Ce qui est important de dire pour les femmes qui vont nous écouter ou les conjoints qui nous écoutent ou les parents qui nous écoutent, c'est que les parcours d'éducation thérapeutique ils sont accessibles gratuitement. C'est-à-dire que les parcours ils sont financés par les agences régionales de santé et donc ils sont accessibles gratuitement aux patientes sur inscription. Voilà, il y a des parcours qui ressemblent aux parcours d'éducation thérapeutique, mais qui sont payants et qui ne sont pas des parcours d'éducation thérapeutique. Je crois que c'est particulièrement important de le dire parce que ces parcours avec l'endométriose, ils coûtent extrêmement cher, notamment en soins de support, en dépassement d'honoraires. Et donc, c'est vraiment une super opportunité qui est offerte par le système de santé français pour aider les femmes à mieux vivre avec la maladie.
Et effectivement, c'est trop peu connu et c'est aussi pour ça que je voulais que vous en parliez aujourd'hui. Alors justement, vous l'avez mentionné, mais pourquoi vous avez fait ce choix toutes les deux, en plus de vos activités, de vous former à l'éducation thérapeutique du patient? Et quels en sont d'après vous les enjeux, même si vous avez commencé à en présenter certains?
Alors pour moi, l'éducation thérapeutique du patient, elle fait appel vraiment à mes valeurs profondes, à ma philosophie profonde en tant que patiente, c'est-à-dire que le TP, donc l'éducation thérapeutique du patient, a pour but d'aider le patient à trouver en lui-même les motivations pour avoir un impact sur sa qualité de vie. C'est-à-dire que tous ces programmes qui vont être à la fois en groupe mais aussi personnalisés, avec des ateliers, vont avoir pour but d'aider les patients à trouver en eux-mêmes les ressources, les compétences. Et ce que j'aime énormément et ce qui fait écho chez moi, c'est que on sort du cadre de la médecine traditionnelle où vous allez avoir un rapport de sachant avec le médecin, ce qui est normal. Et vraiment, le TP est là pour compléter, puisqu'on va donner au patient tous les outils et c'est lui qui va piocher, c'est lui qui va se rendre compte qu'en fait, il a développé énormément de compétences, qu'il est très capacitaire, puisque sa maladie lui demande énormément de compétences et qu'il va pouvoir trouver en lui-même les moyens d'agir sur sa qualité de vie. Ce qui me plaît aussi, c'est que être patient expert, ce n'est pas simplement déverser un témoignage. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est vraiment un positionnement, une posture. Et pour moi, ça nécessite une réelle formation pour les soignants et pour les patients. Et je trouve ça très intéressant.
Merci Camille.
De mon côté, je suis en ligne avec ce que disait Camille. Je rajouterais que ce choix pour moi, il était aussi de pouvoir intégrer ces équipes pluridisciplinaires et d'avoir ce lien avec les soignants. Et je trouve particulièrement intéressant qu'on donne la place aux patients dans une équipe de santé conventionnelle, en fait. Pour moi, c'est vraiment hyper intéressant et important que les patients puissent avoir un contact avec un autre patient, partager des expériences communes, même si évidemment on vit toutes des choses différentes. J'aurais tellement aimé pouvoir échanger avec des patientes au début de mon parcours et avoir voilà ce retour d'expérience de quelqu'un qui avait déjà vécu pas mal de choses, qui aurait pu me donner ses trucs et astuces, me rassurer. Et je trouve que c'est génial de pouvoir faire de la place aux patients dans ces équipes pluridisciplinaires. Et pour moi, ça compte énormément.
Et alors, merci pour vos deux réponses qui sont très complètes et qui répondent déjà partiellement à ma question suivante. On le sait, les patientes expertes, elles sont encore rares dans le parcours de soins de l'endométriose, parcours qui est lui-même encore un petit peu en friche et en construction. Donc, j'ai compris pour vous l'importance de ce statut et je pense que c'était important de le mettre en valeur aujourd'hui. Mais voilà, en quoi et à quel point ces patientes expertes vont être importantes dans l'accompagnement des patientes?
Comme je l'ai dit, en fait, on a tendance à ne voir dans ces parcours que des médecins ou des kinés, des diététiciens, et donc pas forcément des gens qui vivent avec la maladie. Et parler, échanger avec quelqu'un qui vit la maladie, qui sait ce que c'est dans le quotidien, ça peut déjà énormément libérer la parole, on peut se sentir bien plus comprise. Voilà, c'est vraiment... Il y a une forme de complicité, de connivence, c'est pas forcément les bons mots, mais j'imagine que ceux et celles qui nous écouteront comprendront ce que je veux dire derrière. En fait, c'est vraiment de se dire, ok, ben elle a vécu des choses assez similaires et voilà, il y a quelque chose qui se passe, un peu de l'ordre de l'indicible, mais j'en aurais eu énormément besoin et je suis ravie de pouvoir m'investir pour le proposer aux femmes qui commencent leur parcours avec la maladie.
Merci Bertie.
Oui, alors pareil, pour moi, je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Bertie. Pour moi, avoir des patientes expertes, c'est essentiel. Et comme dit Bertie, j'aurais tellement rêvé en rencontrer. J'aurais rêvé rencontrer des patientes et c'est arrivé très tard, vraiment très tard dans la prise en charge enfin, de ma maladie. Je trouve que ça permet une prise en charge encore plus complète, puisque l'endométriose, c'est une maladie de l'intime, une maladie douloureuse, sans traitement. Et qui impacte largement la qualité de vie. C'est pour ça que bah, les patientes expertes ont vraiment un rôle à jouer parce que elles peuvent bah, voilà, créer les occasions, aider à la création de séquences, d'ateliers pour que toutes les patientes puissent trouver en elles bah, voilà, des conseils, des astuces pour pouvoir vraiment améliorer la qualité de vie. Et comme Bertie, je suis ravie de pouvoir bah, voilà, m'investir aux côtés des patientes qui viennent d'être diagnostiquées pour essayer que, en fait, ce que nous, on a traversé, de moins en moins de femmes, moins en moins de femmes les traversent.
Et je suis sûre que vos accompagnements sont précieux pour les patientes qui en bénéficieront. Alors, du fait de vos parcours, que ce soit à titre perso ou pro, vous êtes liés de différentes manières au milieu médical. Et quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France et puis plus généralement des enjeux de santé féminine?
Pour ma part, je trouve que la prise en charge est malheureusement largement inégale en France. Et je trouve cela vraiment très frustrant, puisque j'ai souvent des messages donc via nos réseaux sociaux de gynéca, de patientes qui me posent des questions. Et c'est vrai que je sais que je vois la prise en charge est très différente enfin, en fonction de là où on habite. Et c'est vraiment très frustrant, puisque c'est une injustice, une inégalité. Par exemple, il y a beaucoup de patientes d'endométriose qui auraient besoin d'une prise en charge de la douleur spécifique. Pourtant, il y a encore plein de centres anti-douleurs qui ne les acceptent pas. Donc il y en a certains qui les acceptent et qui sont très bons, mais d'autres qui ne les acceptent pas puisque l'endométriose n'est pas dans les maladies qu'ils ont répertoriées. Et pour moi, il faut absolument faire évoluer les connaissances sur la maladie. C'est pas là simplement une maladie de règles. Et pour parler des enjeux de la santé féminine, en fait, l'endométriose, c'est un peu l'étendard. C'est-à-dire que l'endométriose, maintenant, avec la stratégie nationale, on en parle, c'est un mot connu du grand public, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière l'endométriose, il y a plein de pathologies féminines qui ne sont toujours pas prises en charge ou mal prises en charge. Par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, les cystites, le syndrome de la vessie douloureuse, les syndromes de congestion pelvienne. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Après, il y a beaucoup de progrès qui sont faits aussi. Et donc, je suis quand même assez optimiste. Mais voilà, il faut continuer à faire bouger les choses.
Merci Camille, et oui, il faut l'être optimiste.
Ouais, je rebondirai sur cette dernière phrase de Camille qui dit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et je suis complètement d'accord, ça s'améliore vraiment. Et ça, c'est important de le dire parce que avec la stratégie nationale, avec la création des filières dans les différentes régions, avec le développement des centres de référence, avec la multiplication des parcours d'éducation thérapeutique, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Mais le problème, c'est qu'on part de tellement loin, mais vraiment de trop loin, qu'il y a énormément de travail encore, que ce soit sur l'endométriose ou sur la santé féminine d'ailleurs. Et donc, il faut passer au moins la seconde, voire la troisième, et que les choses avancent plus vite, notamment en termes de recherche sur cette maladie, parce que tant qu'on n'aura pas compris d'où elle vient, comment elle se développe, et ben, on continuera de traiter les symptômes, ce qui est déjà hyper bien, bien sûr, mais on n'a pas de traitement suffisamment efficace. Il y a des femmes qui sont sous traitement hormonal qui continuent à avoir des douleurs. Il y a des femmes chez qui, même sous traitement hormonal, la maladie continue de se développer. Et donc, tout ça, c'est pas normal, en fait. Il faut vraiment qu'on trouve la cause de cette maladie, qu'on mette beaucoup plus d'argent à la fois sur la recherche et puis sur la prise en charge au quotidien dans le développement des filières de soins. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pays où ça c'est beaucoup mieux pris en charge qu'en France, malheureusement.
Merci pour ces
Et
deux
si
points
je
de vue que
peux.
je rejoins. Bien sûr, je t'en prie,
Bien sûr, je
Camille,
t'en prie.
complète.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, sur la prise en charge de l'endométriose, il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est que donc on le sait, l'endométriose, c'est une maladie qui impacte la qualité de vie. Et on sait que les centres de support ont un impact. Par exemple, la Haute Autorité de Santé recommande le yoga, l'ostéopathie, l'acupuncture pour l'endométriose. Pourtant, ces soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et sont souvent très onéreux. Et pour moi, il y a une des avancées, enfin, dans le futur, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit réfléchi, sur la prise en charge de ces soins de support pour les malades, enfin les femmes atteintes d'endométriose et les autres maladies chroniques qui en ont besoin. Parce que c'est vrai que, en fait, là, dans l'endométriose, on est souvent face à le traitement hormonal qui peut être remboursé ou pas, et après, une multitude de soins de support qui ne sont pas toujours validés par les professionnels de santé, alors qu'on sait qu'ils ont pourtant un impact positif, et qui en plus sont très onéreux. Mais donc, du coup, ça, pour moi, c'est vraiment un des enjeux majeurs de la prise en charge de la maladie en France.
Oui, et ce serait plus cohérent avec la prise en charge qui est nécessairement transversale et pluridisciplinaire de l'endométriose dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour terminer sur une note positive, avez-vous un conseil ou une bonne pratique à donner aux femmes et aux hommes qui nous écouteront ?
Moi, je dirais aux femmes de s'écouter et à leur entourage de les écouter et de donner du prix à leurs paroles, de donner du prix à ce qu'elles ressentent. Parce que, en fait, tant qu'on banalisera les douleurs, tant qu'on dira que c'est normal, que c'est dans la tête, etc., on ne pourra pas avancer sur la prise en charge de l'endométriose. Donc, écoutez-vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous soyez déjà diagnostiqué ou pas encore diagnostiqué, écoutez-vous, vous êtes la meilleure personne, la personne la mieux placée pour savoir ce qui se passe dans votre corps. Et donc, ne lâchez pas l'affaire, que ce soit pour obtenir un diagnostic, que ce soit pour obtenir la bonne prise en charge de vos symptômes, de votre douleur, de vos problèmes digestifs. Ne lâchez pas l'affaire et ne lâchez pas l'affaire aussi tant que vous n'avez pas trouvé comment vous soulager, que ce soit avec des traitements médicaux traditionnels ou en complétant avec des soins de support. Ne lâchez pas l'affaire, écoutez-vous et ne lâchez pas l'affaire.
Merci Verti.
C'est drôle parce que j'avais réfléchi et donc mon premier mot, donc c'est comme Bertie en fait, c'est écoutez-vous. Faites-vous confiance parce que comme le dit Bertie et ce que je pense profondément, vous êtes la personne vous êtes la seule personne dans votre corps, vous savez ce qui se passe. Évidemment vous avez besoin des médecins, évidemment vous avez besoin des professionnels de santé, mais continuez de vous écouter, ne baissez jamais les bras et cherchez partout les solutions qui peuvent vous apporter du bien. Pour moi, le chemin, il est long. C'est vrai que c'est pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va mieux, mais en fait, ce chemin, il est possible. Et je pense qu'on peut trouver du bien. Il faut vraiment continuer parce que la vie de chaque patiente compte. Votre vie a une valeur, donc vous pouvez pas vivre dans la douleur et vous pouvez pas rester avec une douleur.
Merci à toutes les deux. Je pense que c'est des témoignages précieux. Merci pour le partage d'expériences perso. Merci pour le partage de vos parcours, pour les points de vue, le partage d'expertise. Vraiment, je pense que ce sera très utile à celles et ceux qui nous écouteront. Donc, merci Bertie, merci Camille pour cet échange.
Merci Pauline.
Merci Pauline.
C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.